بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 18 du mois Safar de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 1er août 2026. J'ai le plaisir de vous retrouver après cette coupure afin de poursuivre ensemble notre lecture de ce livre très profitable de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Son livre intitulé تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. Donc des notices et des rappels concernant des jugements propres aux femmes croyantes. Avant de commencer notre lecture, il y a un sujet que je voulais aborder brièvement aujourd'hui, avec la promesse de le détailler plus tard, bi'idhnillahi ta'ala, dans une conférence spécifique. Ce point concerne le danger du féminisme pour la femme croyante. Et qu'on est à une époque où ces idées sont propagées un petit peu partout, d'où l'importance que la femme cherche à connaître ce que c'est ce mouvement et à quoi il appelle afin de se préserver de leurs idées et de ne pas tomber dans ces idées-là sans se rendre compte, car la femme croyante, ça coule de source qu'elle ne souhaite pas être assimilée à une féministe. C'est une femme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a élevée par sa foi. Allah lui a donné toute sa dignité. Allah a fait d'elle une perle précieuse. Il lui a donné des choses qui sont spécifiques à elle. Et dans sa législation, il lui a consacré beaucoup de volets qui comportent des jugements propres à cette femme croyante. Le féminisme, d'une manière résumée, c'est une idéologie qui cherche à faire révolter la femme contre l'homme et à créer comme un combat perpétuel entre la femme et l'homme, au point où la femme peut devenir agressive vis-à-vis de tous les hommes. Donc ça, c'est d'une manière globale en quoi consiste le féminisme. Bien évidemment, ils vont passer par plusieurs étapes avant d'arriver à cet objectif, qui est de faire révolter la femme contre l'homme. Naam, nous reconnaissons qu'il y a des hommes qui sont injustes. Nous reconnaissons qu'il y a des hommes qui font du tort aux femmes. Mais l'erreur est de généraliser cela. Et l'erreur aussi d'avoir ce préjugé contre tout homme. Alors que la base, ce n'est pas ça. La base, c'est que l'homme, quand il cherche, yani, quand on parle de la femme qui est sa mère, il n'est pas ainsi, il n'est pas censé en tout cas être ainsi avec elle. Quand on parle de la femme qui est sa sœur, il n'est pas censé être ainsi avec elle. Quand on parle de la femme qui est sa fille, bien évidemment qu'il n'est pas censé être ainsi avec elle. Et de même, pour la femme qu'il a choisie lui-même afin de partager avec elle toute sa vie jusqu'à quitter ce bas monde. Il est censé être bon envers elle, avoir le meilleur des comportements, et être généreux, être gentil, être yani, dans son aide et dans son soutien et lui procurer le sentiment de l'assurance et de la sécurité et savoir qu'elle a un homme sur lequel elle peut compter après Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'on s'imagine la vie de couple. Et ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des difficultés, des obstacles. Au contraire, ces difficultés, ces obstacles, c'est elles qui vont venir pimenter cette vie de couple et la rendre encore plus belle et plus merveilleuse en faisant des efforts de part et d'autre afin de trouver toujours des solutions aux problèmes qu'on puisse rencontrer dans notre vie de couple. Donc, on n'idéalise pas la vie de couple, lakin, là, il n'y a pas de vie de couple dans laquelle il n'y a pas de difficultés, de problèmes. C'est même fait de ça. Mais, quand on se tient à cette législation magnifique et merveilleuse de l'islam, on arrive toujours à trouver des solutions. Et la pire des solutions, qui est censée être la dernière, c'est la cassure, c'est la séparation de cette relation très forte, la relation du mariage. Donc, on ne part pas dans cet état d'esprit de guerre contre l'homme. Également, nous constatons à notre époque qu'il y a une dévalorisation de la plus noble des fonctions que puisse occuper une femme sur cette terre, qui est la fonction et le métier d'une femme, d'une mère. Le métier et la fonction d'une mère. Cette fonction, ce métier est beaucoup dévalorisé à notre époque. Et ça justement, car je parlais des outils qui sont utilisés par ces féministes, ces ennemis en réalité de la femme. Ces ennemis de la femme qui cherchent à faire d'elle un objet au service de l'homme. Donc, parmi les outils qui sont utilisés, qui sont en lien avec notre sujet, c'est de dévaloriser cette noble fonction qui est la fonction de la mère, la maternité. Et vous constatez d'ailleurs qu'une femme qui s'occupe de son foyer, qui remplit la fonction de s'occuper de son foyer et qui s'occupe d'élever ses enfants après les avoir portés dans son ventre et après leur naissance, elle s'occupe de les élever et elle veille sur eux dans tous les sens du terme. Cette femme, comment on l'appelle à notre époque ? L'arabia, naqul, imra'atun aatila. Yani qui n'a pas de travail. C'est une femme n'ayant pas de travail. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce point ? Est-ce que vous vous êtes arrêté sur ce point ? Comment la femme qui fait le travail le plus noble dans une famille et par conséquent le plus noble dans une société, comment cette femme, on va dire d'elle qu'elle ne travaille pas ? Si cette même femme, elle fait cette fonction, elle fait ce métier pour d'autres enfants qui ne sont pas les siens, on dit qu'elle travaille. Si elle cuisine pour une autre famille, on dit qu'elle travaille. Lakin, si elle cuisine pour ses enfants, pour sa famille, elle s'occupe de l'éducation de ses enfants, on dit qu'elle est sans travail. Elle est au chômage. Et subhanallah, c'est devenu presque quelque chose de normal pour nous d'entendre ce terme employé dans ce contexte, alors que ce n'est pas du tout normal. Si elle fait ça pour ses propres enfants, elle est au chômage. Et si elle le fait pour autrui, elle travaille. Donc ça rentre dans cette tentative de dévaloriser le rôle d'une mère. On ne veut pas de la femme qu'elle soit une épouse. Une épouse, on donne cette image que l'épouse, elle est forcément en dessous de son mari. Elle n'a pas le droit de faire ça, elle n'a pas ça, elle n'a pas ça. Et par la suite, une mère, c'est une femme sans travail, c'est une femme au chômage. Et comme j'ai dit, la mère, c'est la fonction et le métier le plus noble. Une femme qui sera à l'origine d'une longue chaîne, si Allah lui permet. Elle mettra au monde un enfant qui aura des enfants par la suite. Et elle, elle est à l'origine de toute cette série de naissances et d'êtres humains mis au monde. Elle est à l'origine de tout ce bien. Et elle est sur le projet le plus important. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les femmes soient, et il ne faut pas que les femmes s'étonnent qu'elles soient attaquées en permanence par rapport à leur féminité, par rapport à leur maternité et d'autres sujets. Et qu'elles soient appelées également à tout ce qui va l'éloigner de ces valeurs qui sont les vraies valeurs pour une femme. Car la femme, elle est sur le projet le plus important dans une famille. Et par conséquent, le plus important dans une société. Si on veut détruire une société, il suffit de détruire la femme. Il suffit d'éloigner la femme de sa nature humaine saine, notamment en dévalorisant la fonction de mère. Voyez, aussi, on constate qu'à notre époque, les femmes, les mères, je parle des mères, les mères se plaignent beaucoup plus qu'avant. À notre époque, les mères se plaignent beaucoup plus qu'avant. Et souvent, on peut les entendre parler d'échecs. Parler d'échecs et qu'elle n'a pas réussi, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. Donc tout ça, c'est des sujets que j'aimerais bien détailler plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Lakin, je vous donne un aperçu les concernant. Donc, le problème de ces mères, déjà, c'est qu'elles ne comprennent pas ce que c'est la vraie notion de la réussite en islam. Ce que c'est la réussite en islam. Et ce que c'est l'échec, également. Il faut savoir que le fait d'être une mère, c'est déjà une réussite en soi-même, indépendamment des résultats. Le fait d'être une mère, c'est déjà une réussite qu'Allah t'a permis et t'a accordée. Et c'est une faveur immense qu'Allah t'a accordée. Lakin, par quoi on peut expliquer le fait que les mères à notre époque se plaignent beaucoup plus que les mères d'avant? On constate qu'il y a des charges qu'avaient les mères avant et qui sont les mêmes aujourd'hui. Par exemple, les problèmes de grossesse, les difficultés de la grossesse, de l'accouchement, le travail à la maison. Il y a beaucoup de choses qui étaient pareilles et des choses qui ont été facilitées pour les mères d'aujourd'hui comparées aux mères d'avant, comme le travail à la maison avec les appareils et les machines. Ça rend facile beaucoup de tâches que les femmes faisaient avant manuellement. Également, les conditions de santé. Et quand je parle de la santé, je parle de la santé physique. Car justement, on reviendra sur la santé mentale. Lakin, au niveau de la santé physique, il y a énormément de progrès qui a été fait à ce sujet-là. Les femmes, avant, mouraient beaucoup plus pendant l'accouchement et par plusieurs maladies également, par les guerres qui ont diminué, alhamdoulilah, à notre époque, comparé à avant. Donc, on constate qu'il y a du progrès dans plusieurs domaines. Lakin, les plaintes des mères se multiplient. Donc, comment l'expliquer? Comment expliquer ce phénomène? Parmi les explications qui sont données, c'est que La chose qui a changé à notre époque, effectivement, il y a un allègement par rapport à plusieurs tâches ménagères, il y a beaucoup de facilité par rapport à l'accouchement comparé à avant, il y a plus de sécurité, il y a plus de... Lakin, cette avancée technologique et ces progrès matériels ont été accompagnés d'une grande régression au niveau de la santé mentale. Donc il y a énormément de pression psychologique sur la femme qui sont apparues à notre époque et qui n'existaient pas avant. Comme le sujet que j'ai abordé tout à l'heure, la femme est attaquée de partout par rapport à son statut de femme, par rapport à son statut de mère, et qu'elle a une mère, c'est un échec. Pour eux, c'est un échec. Une femme qui se marie, c'est déjà une femme qui accepte de se soumettre à un homme. Donc il y a toute cette pression qui s'est rajoutée, et en plus de dévaloriser cette fonction noble qui est la fonction de la mère. Et aussi, parmi les causes, la mauvaise compréhension de ce que c'est le bonheur. C'est quoi la notion du bonheur en islam? On constate qu'à notre époque, le bonheur est souvent lié au matériel, alors que ce n'est pas vrai. On peut être très heureux, on peut être épanoui avec très peu de moyens. Le bonheur, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Tu t'achètes une chose, tu t'achètes un bijou, tu t'achètes une voiture, quelque chose de luxueux, un parfum cher. Donc, il y a cette notion du bonheur qui a besoin d'être révisée et d'être bien compris conformément au texte de l'islam. Et aussi, principalement, la cause principale, c'est cette pression psychologique exercée sur la femme d'une manière générale et sur la mère en particulier. Donc voilà par rapport à ce point. Aujourd'hui, on va commencer le 5e chapitre de ce livre dans lequel Cheikh Hafidhahullah va parler de quelques règles. قال في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. Donc il va aborder des règles qui concernent la femme, des règles spécifiques à la femme concernant sa salat, concernant la salat. Il a dit: حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها. Donc il s'adresse à la femme musulmane, il lui dit: préserve, ô femme musulmane, préserve et accomplis ta salat en son temps déterminé. Car la salat a été prescrite aux croyants à des temps et des heures bien déterminés. Et la femme doit faire attention à toujours faire sa salat en début de son temps. Si la femme n'est pas concernée par la salat en groupe à la mosquée, ceci ne l'exclut pas du mérite d'accomplir sa salat en début de son temps, et que ça représente une des actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salam, quand il a été interrogé au sujet des œuvres les plus aimées par Allah, il a dit as-salatu ala waqtiha, en premier. La salat en début de son temps. C'est comme ça que ce hadith a été compris par les savants. La salat en début de son temps. Donc, la femme chez elle doit faire attention à accomplir ses salawats au début de son temps. Yani, dès qu'il y a l'adhan, elle se prépare, elle fait ses ablutions et elle fait sa salat et ensuite elle continue ses tâches. Lakin, elle arrête tout avec l'adhan, comme faisaient les salafs. Yani, il disait que le forgeron, quand il entendait Allahu Akbar, yani, il arrêtait son marteau même avant d'accomplir, même s'il était en pleine action, en plein travail, il arrêtait. Dès qu'il entend l'adhan, ça s'arrête instantanément. Qu'Allah nous le facilite à tous. Tayyib. Ensuite, il a dit: Mustawfiyatan لشروطها وأركانها وواجباتها. Donc, elle doit accomplir sa salat en son temps déterminé, en remplissant toutes ses conditions, tous ses piliers et toutes ses obligations. Donc, en remplissant toutes les conditions de la salat. Vous savez que la condition et le pilier ont le même poids. Leur absence invalide l'acte d'adoration. Ont le même poids. Mais c'est quoi la différence entre un pilier et une condition? Qui peut répondre? Yani, pour les sœurs, vous savez que vous avez Mixler pour envoyer vos questions à la fin du cours. Donc, le pilier et la condition ont le même poids. Leur absence dans l'acte d'adoration rend l'acte invalide. Lakin, quelle est la différence entre une condition et un pilier? Est-ce qu'il y a une réponse? طيب. On va écouter le frère Zakaria. تفضل اخي. تفضل يا اخ زكريا. ما الفرق بين الشرط والركن؟ Tu peux ouvrir ton micro. Mais par contre, il faut faire vite. Ou t'as changé d'avis? Oui. Zakaria Abu Rumaysa. Taïb. Donc, la différence entre les deux, c'est que la condition est avant l'acte d'adoration. Et le pilier est en plein dedans. Il est dans l'acte d'adoration. Prenez un exemple. Les ablutions, c'est une condition de la salat. Et la récitation de surat al-Fatiha, c'est un pilier de la salat. Donc c'est ça la différence entre les deux. Sinon, les deux sont indispensables pour la validité de l'acte d'adoration. Lakin, pour les prochaines questions, Annie, si les sœurs veulent participer, elles envoient leurs réponses sur Mixler, la radio Al-Haq. C'est connecté et c'est en direct. Et c'est fait pour ça. Paye. Donc, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous appelle à accomplir la salat. Il ne nous dit pas de la faire. Car l'iqama, c'est de la faire comme elle doit être faite, c'est-à-dire en remplissant justement les conditions, les piliers et les obligations. L'obligation est indispensable pour la validité de l'acte d'adoration également. Et elle est dans l'acte d'adoration. Mais celui qui la délaisse volontairement, son adoration s'invalide. Et celui qui la délaisse par oubli, il peut la compenser par deux prosternations de distraction, contrairement au pilier. Celui qui oublie un pilier, il doit le faire. Ça ne se compense pas par les prosternations de distraction. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux mères des croyants: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il leur a dit dans le sens approximatif: accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. وَهَذَا أَمْرٌ لِلْمُسْلِمَاتِ عُمُومًا. Et cet ordre s'adresse aux femmes musulmanes d'une manière générale. Comme bien même, il s'adresse tout d'abord aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam, lakin il s'adresse également à toutes les femmes croyantes. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة représente le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. وهي عمود الإسلام. الصلاة est le pilier central même de l'islam. Elle est le pilier central de l'islam. العمود. وتركها كفر يخرج من الملة. Ensuite, Cheikh a dit, l'abandon de la salat constitue un acte de grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Et ici, bien évidemment, Cheikh, il parle de son abandon par fainéantisme et par paresse, car les savants ne divergent pas au sujet de l'abandon de la salat par rejet, par rejet de sa législation. Quelqu'un qui dit la salat n'est pas obligatoire. Les savants ne divergent pas à son sujet qu'il n'est pas musulman. Lakin, ils ont divergé au sujet de celui qui abandonne la salat par paresse. Il dit na'am salat, elle est obligatoire, c'est un pilier de l'islam, je dois la faire, mais j'arrive pas, je hadith, fainéantisme, paresse, des choses comme ça. Il sort des prétextes comme ça. Celui-là, les savants ont divergé à son sujet. Cheikh a choisi l'avis qu'il n'est pas musulman. Lakin, il suffit pour indiquer la gravité de cet acte, qui est l'abandon de la salat, il suffit pour indiquer sa gravité de voir que les savants ont divergé au sujet de celui qui l'abandonne. Est-ce que vous vous rendez compte? Celui qui abandonne la salat, les savants divergent à son sujet, est-ce qu'il est musulman ou pas? Et ça, c'est suffisant pour indiquer la gravité de l'abandon de la salat. Sans rentrer dans les divergences, car ce n'est pas ça notre sujet dans ce cours. Taïb. Ensuite, il a dit, فَلَا دِينَ وَلَا إِسْلَامَ لِمَنْ يُصَلِّي. Il a dit, donc, il n'y a donc pas de foi ni d'islam pour celui qui ne fait pas la salat. Et ça, c'est une citation rapportée de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a été rapportée par l'imam al-Marwazi dans son livre très connu, Ta'zim au Qadr al-Salat. Omar, radiyallahu anhu, a dit, et c'est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik également, cette citation de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Celui qui abandonne la salat n'a pas de foi ni d'islam. Min al-rijal wa al-nisa. Et le jugement, il est valable pour les hommes, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Il est valable pour les deux. Car comme on l'a vu à plusieurs reprises, toutes les règles de l'islam concernent les hommes comme les femmes de la même manière, sauf s'il y a des preuves sur la particularité, et que ce jugement est propre aux hommes ou qu'il est propre aux femmes. Tant qu'on n'a pas ça, le jugement est valable pour les hommes comme pour les femmes. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها. Donc, عفواً. Donc il a dit وتأخير الصلاة عن وقتها إضاعة من غير عذر شرعي إضاعة لها. Donc retarder la salat au-delà de son temps prescrit, sans excuse valable, ceci constitue une négligence à son égard, une négligence à l'égard de la salat. Donc celui qui fait sortir sa salat de son temps, sans excuse valable, par exemple quelqu'un qui s'est évanoui, il a repris conscience après la sortie du temps de la salat, celui-là est excusé. Quelqu'un pour qui ce n'est pas une habitude, mais un jour ça lui est arrivé de s'endormir et de ne pas se réveiller jusqu'à la sortie de l'heure de la salat. C'est pas une négligence de sa part et donc il est excusé. Il l'accomplit quand il se réveille. Quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui fait une opération chirurgicale et qui est anesthésié, il ne peut pas faire la salat. Donc tous ces gens-là sont excusés et le fait de sortir la salat de son temps, pour eux, n'est pas une négligence. Lakin, celui qui l'a fait sortir de son temps prescrit sans qu'il ait une excuse valable, alors ceci constitue une négligence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dans le sens approximatif, Allah dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la salat et suivirent leurs passions. Ils rencontreront une perdition totale, un châtiment violent, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien. Dans sourate Maryam. وقد ذكر الحافظ ابن كثير وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها. Donc, l'imam Ibn Kathir a mentionné dans son exégèse, son tafsir, il a mentionné de l'imam, le grand érudit Ibn Kathir, al-Hafid, le grand mémorisateur et grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné dans son tafsir de beaucoup de savants, un jam'in min a'immatil mufassirin, parmi les imams des mufassirin, parmi les imams de ceux qui ont expliqué Al-Qur'an. Il a rapporté d'eux, anna ma'na idha'ati salat, que la signification de la négligence de la salat dans ce verset, c'est de la faire sortir de son temps. C'est de la faire sortir de son temps. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Je vous relis le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ils leur succédèrent des générations qui ont négligé la salat et qui ont suivi les passions. Après les premières générations qui étaient dans un attachement à l'accomplissement de la salat dans son temps et qui étaient dans le suivi de la révélation. Car l'opposé du suivi de la passion, c'est le suivi de la révélation. Celui qui ne suit pas la révélation, forcément, il suit la passion. Et celui qui suit la révélation, forcément, il ne suit pas la passion. Donc, Cheikh Hadi a rapporté de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, qu'il a rapporté d'un grand nombre parmi les imams de l'exégèse, Al-Mufassiroun, que la signification de la perte de la salat dans ce verset désigne le fait de négliger ses horaires et de la sortir de son temps en l'accomplissant après l'expiration de son temps accompli. Par exemple, il fait dhuhr après l'adhan de l'asr. Il fait l'asr après l'adhan de l'maghrib. Il fait le maghrib après l'adhan de l'isha. Il fait l'isha après le passage de la moitié de la nuit. Il fait l'fajr après le lever du soleil. Donc cette personne a négligé la salat en la faisant sortir de son temps. Pourquoi Cheikh Fawzan y rapporte cette parole? Pour dire que ce n'est pas ceux qui ne la font pas du tout, c'est ceux qui la font qui sont visés par le verset. Amma, ceux qui ne la font pas, ils sont visés par d'autres versets qui jugent de leur mécréance selon cet avis et que ce ne sont pas des muslimines. Amma, dans ce verset, il s'agit de ceux qui font la salat mais qui la font sortir de son temps. Et la salat, ya ikhwa, en plus d'être le deuxième pilier de l'islam, le pilier de l'islam le plus important dans la pratique, la salat est une prescription qui a beaucoup de particularités. Comme vous savez, salat a été prescrite dans le ciel et pas sur terre, directement d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, comme c'est le cas pour le reste des législations de l'islam. Salat a été prescrite 50 et elle a été allégée à 5 par jour, mais la récompense est restée la récompense de 50. Et ensuite, cette récompense de 50 sera multipliée pour chacun selon sa sincérité, son attachement à son accomplissement et sa dévotion et sa concentration sera multipliée de 10 jusqu'à yani, des multiplications qu'il n'y a que Allah qui connaît.
وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفسر بأنه واد في جهنم.
Donc ça c'est par rapport à l'explication de ce verset. Et l'imam Ibn Kathir a expliqué le terme al-ghay qu'ils vont rencontrer, il l'a interprété par la perdition. C'est la grande perdition. Et par la perdition. Et ça a été expliqué, interprété par d'autres savants, comme l'a rapporté l'imam Ibn Kathir toujours dans son tafsir, d'autres savants l'ont interprété, al-ray, par une vallée en enfer. Une vallée en enfer.
Voilà par rapport à ce paragraphe. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah a parlé de quelques règles de jurisprudence spécifiques à la femme qui concernent sa salat et qui la distinguent de l'homme. Et il les a énumérées. Il en a cité combien ? Il a cité 5 règles qui sont spécifiques à la femme dans sa salat et qui la distinguent de l'homme. La première, ليس على المرأة أذان ولا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها قال في المغني لا نعلم فيه خلافا.
Donc la première règle, la femme n'a pas à effectuer ni l'adhan, l'appel à la salat, ni l'iqama, qu'on peut traduire par le second appel. Donc la femme, quand elle fait sa salat, elle ne fait ni l'adhan ni l'iqam. Et Cheikh a justifié cet avis, qui est aussi l'avis de l'Ajna Daima, le comité permanent des grands savants en Arabie Saoudite. Il a dit لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ. Car, il dit, car, par rapport à l'adhan, a été légiféré pour être proclamé à voix haute. L'adhan est fait à voix haute. Le mu'adhin, il hausse sa voix. En appelant les gens à la salat. Or, il n'est pas permis à la femme d'élever la voix. Et ces deux actes, l'adhan et l'iqama, ne sont pas valides de sa part. Et ensuite, il a rapporté la parole de l'imam Ibn Qudama dans son célèbre ouvrage « Al-Mughni ». Il a dit « Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet ». Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet. C'est-à-dire que la femme fasse l'adhan et qu'elle fasse l'iqama. L'imam Ahmed, donc fin de citation, ça c'est la première règle. L'imam Ahmed a été rapporté de lui, quand il a été interrogé au sujet de l'adhan et de l'iqama, est-ce que la femme, elle fait l'adhan et l'iqama, il a dit « In fa'alna fala ba'sa » وَإِلْ لَمْ يَفْعَلْنَا فَجَائِزٌ. Il a dit, si elles les font, il n'y a pas de mal en cela. Et si elles ne le font pas, c'est permis. Donc il a laissé le choix. C'est ce qui est rapporté de l'imam Ahmed. Il faut savoir, et à Ikhwa, ce qui est cité dans le madhab, ce n'est pas toujours l'avis de l'imam de le madhab. Et en plus, dans le cas de le madhab al-Hanbali, souvent, nous sommes face à une situation où plusieurs avis sont rapportés de l'imam Ahmed concernant la même question. Car l'imam Ahmed peut donner un avis et ensuite il prend connaissance d'une parole d'un sahabi et il change d'avis. L'imam Ahmed était connu pour suivre les avis des compagnons. Quand il trouve un avis d'un compagnon par rapport à une question, il le suit. Donc, le madhab al-Hanbali, c'est ce qui a été choisi par les suiveurs de l'imam Ahmed, en regardant tout ce qui a été rapporté de lui et en choisissant ce qui semble le plus proche de sa méthode dans la jurisprudence et de ses grandes règles dans les fondements de la jurisprudence. Donc, il est rapporté de l'imam Ahmad qu'il n'ait vu aucun mal à ce que la femme fasse l'adhan et l'iqam. Maintenant, par rapport au madhab Shafi'i. Dans le madhab Shafi'i, il voit que c'est recommandé pour la femme de faire l'iqama et non pas l'adhan. Car comme vous savez, l'adhan, c'est pour appeler ceux qui sont à l'extérieur de la mosquée pour venir assister à la salat en groupe. L'adhan, c'est pour appeler ceux qui sont à l'extérieur. Contrairement à l'iqama, l'iqama, c'est pour ceux qui sont présents dans la mosquée afin qu'ils se réunissent et qu'ils se mettre dans les rangées pour commencer à salat. C'est pour ça, dans le madhab Shafi'i, il voit que la femme peut faire l'iqama, car c'est pour appeler ses sœurs qui sont avec elle, et elle n'a pas à faire l'adhan. Il est rapporté de Aïcha radiallahu anha, comme dans Musannaf ibn Abi Shayba, qu'elle faisait l'adhan et qu'elle faisait l'iqama, qu'elle faisait les deux. Lakin, bien évidemment, elle fait l'adhan chez elle, de la même manière, avec la même voix avec laquelle elle va faire l'iqama, chez elle. Elle ne sera pas entendue par des hommes étrangers, des hommes à l'extérieur. Elle fait l'adhan et elle fait ses rawatib, et ensuite elle fait l'iqama et elle fait la salat obligatoire. L'imam Ibn al-Munzir a dit que l'adhan et l'iqama, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme fasse l'adhan et qu'elle fasse l'iqama également. Wallahu a'lam, c'est ça qui semble être le plus proche de la vérité. C'est que la femme, si elle fait l'adhan et l'iqama chez elle, sans qu'elle soit entendue par des hommes étrangers, il n'y a rien qui lui interdit cela. Lakin, si elle ne les fait pas, sa salat est valide. Sa salat est valide, inshallah, Allahu alam. La deuxième règle, il a dit, hafidhahu Allahu ta'ala, كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها. Il a dit, la femme, l'ensemble du corps de la femme est une nudité à couvrir, l'aura, durant la salat, à l'exception de son visage. Donc, tout le corps de la femme est une aura à couvrir dans la salat. Car vous savez que l'aura, il y a une aura lors de l'accomplissement de la salat. Il y a une aura quand la femme, elle est avec ses maharim. Il y a une aura quand la femme est en présence d'hommes étrangers. Et ce ne sont pas les mêmes. Dans la salat, la femme doit couvrir l'ensemble de son corps, excepté son visage. En présence d'hommes étrangers, la femme doit couvrir l'intégralité de son corps, y compris son visage. Et en présence de son père et de son frère, la femme n'a pas cette obligation, mais elle ne doit pas montrer ses parties intimes ou des parties. Elle montre ce que les femmes montrent habituellement. La tête, les cheveux, le cou, les avant-bras, et ainsi de suite. Ce que les femmes ont l'habitude de montrer. Lakin, ce n'est pas parce qu'elle est en présence de son père ou de son frère ou de son fils qu'elle va porter un caleçon, quelque chose de très serré qui montre ses parties intimes ou qui montre sa poitrine. La femme doit garder une pudeur. La seule personne avec laquelle il n'y a pas de pudeur pour la femme, c'est son mari. Amma, même avec son père et son frère et ses enfants, il faut qu'il y ait une certaine pudeur. Il n'y a pas la même contrainte qu'avec les hommes étrangers, quand elle est dehors, ou en présence d'hommes étrangers à la maison, lakin, il y a un minimum à respecter. Il a dit, وَفِي كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا خِلَافٌ. Donc, après avoir dit que l'ensemble du corps de la femme est une aura durant la salat, il a dit, à l'exception de son visage, il a dit, quant à ses mains et ses pieds, il existe une divergence à leur sujet entre les hommes de science. Ils ont divergé. Est-ce que la femme doit couvrir ses mains et ses pieds dans la salat?
وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها. حيث لا يراها رجل غير محرم لها.
Et il continue, il poursuit en disant, et tout cela s'applique, yani cette divergence au sujet des mains et des pieds s'applique lorsqu'aucun homme qui ne lui est interdit au mariage non mahram, ne la voit. Si elle est en présence d'un homme qui ne fait pas partie de ses maharim, le mahram, comme vous savez, c'est l'homme que la femme ne peut jamais épouser. Et ne rentre pas les hommes que la femme ne peut pas épouser temporairement, comme le mari de sa sœur. Elle ne peut pas l'épouser tant qu'il est marié avec sa sœur. Lakin, s'il se sépare de sa sœur décède, il peut l'épouser. Donc, ce n'est pas un mahram. Le mahram, c'est l'homme que la femme ne peut jamais épouser. Comme son père, comme son frère, comme son fils, comme son oncle maternel, paternel. Ça, c'est le maharim. Donc cette divergence au sujet des mains et des pieds, c'est quand la femme n'est pas en présence d'un homme non mahram. Lakin, si elle est en présence d'un homme non mahram et qu'elle accomplisse la salat en sa présence, bien évidemment que à ce moment-là, elle doit couvrir tout son corps, y compris les mains et les pieds, et y compris le visage, si elle n'a pas le choix que de faire la salat devant lui. Lakin, si elle peut, elle ne la fait pas devant un homme étranger, pour qu'elle ne soit pas dans l'obligation de couvrir son visage. طيب. كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال. Et pourquoi elle doit couvrir ses mains et ses pieds également en présence d'hommes étrangers non mahram? Car elle doit les couvrir de la même manière qu'elle doit les couvrir en dehors de la salat devant ces hommes étrangers. De la même manière, si à l'extérieur ou à la maison, elle est en présence de cette catégorie d'hommes, elle doit couvrir la totalité de son corps. Ensuite, il a dit « فَلَا بُدَّ فِي صَلَاتِهَا مِنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِهَا وَرَقَبَتِهَا » Il est indispensable pour la femme, lors de la salat, qu'elle se couvre la tête et le cou. « وَمِنْ تَغْطِيَةِ بَقِيَّةِ بَدَنِهَا » et qu'elle doit couvrir également lors de la salat, elle doit couvrir également le reste de son corps jusqu'au-dessus de ses pieds. Jusqu'au-dessus de ses pieds. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني من بلغت الحيض إلا بخمار. Conformément à la parole du prophète عليه السلام, où il dit Allah n'accepte pas la salat d'une femme ayant atteint l'âge de la puberté si ce n'est avec un voilement de la tête, الخمار, un voile, الخمار, qui va couvrir cette femme entièrement, excepté le visage et les mains et les pieds au sujet desquels, les mains et les pieds au sujet desquels il y a une divergence. Mais la femme ne doit pas couvrir son visage pendant la salat. Au contraire, elle doit ne pas le couvrir, sauf si elle est en présence d'hommes étrangers. Cher, il poursuit en disant « Wal-khimaru » ما يغطي الرأس والعنق. الخمار désigne ce qui couvre la tête et le cou. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. Donc, Ummu Salama, regardez, ya Ikhwa, ya Akhawat, l'attachement des femmes croyantes, des Sahabiyat, à leur pudeur et à couvrir tout ce qu'elles doivent couvrir de leur corps. Ummu Salama, radiyallahu anha, a interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, la femme peut-elle faire la salat vêtue d'un dir'a? Ad-dir', c'est une robe ample, large. Elle peut accomplir la salat dans un dir' et khimar. Khimar, c'est le voile. Sans porter d'izar. Sans porter d'izar. Laysa alayha izar. L'izar, on peut le traduire par une étoffe intérieure. Donc, est-ce qu'elle peut faire la salat en étant vêtue seulement de robes amples et de khimar, sans porter une étoffe inférieure? Le Nabi a répondu en disant « Oui, si la robe est ample et descendante, au point de couvrir le dessus de ses pieds. » Donc, si cette robe, elle descend jusqu'à couvrir ses pieds, et qu'elle soit ample, elle ne montre pas les formes de son corps, et qu'elle couvre sa tête et son cou avec un khimar, alors ceci est valide. Ceci est valide selon ce hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Dawud et Ad-Dharqutni. Cheikh, il poursuit en disant « Dalla al-hadithani ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. » Donc, il a dit que ces deux hadiths montrent qu'il est obligatoire pour la femme pendant sa salat de se couvrir la tête et le cou. كما أفاده حديث عائشة رضي الله عنها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك. Donc, de ces deux hadiths, on prend qu'il est obligatoire pour la femme, pendant sa salat, de couvrir la tête et le cou, comme cela ressort du hadith Aïcha radiallahu anha, ainsi que de couvrir le reste de son corps jusqu'au-dessus de ses pieds, comme cela ressort du hadith Umm Salama radiallahu anha, et qu'il lui est permis de découvrir son visage lorsque aucun homme étranger, non mahram, ne la voit. Comme ceci est rapporté dans le consensus des gens de science à ce sujet, que la femme ne couvre pas son visage pendant la salat, sauf si elle est en présence d'un homme étranger. Et ensuite, il a rapporté la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans laquelle il dit « فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِالِاخْتِمَارِ وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. Donc Cheikh l'Islam, dans cette citation, il parle de la aura de la femme pendant la salat et de sa aura quand elle est en présence d'hommes étrangers, non mahram. Ce qu'on appelle aura nazar, quand elle est vue par des hommes étrangers. Il dit dans cette citation, si la femme fait la salat seule, il lui est ordonné de porter al-khimar, le voile. Alors qu'en dehors de la salat, il lui est permis de se découvrir la tête chez elle. De se découvrir la tête chez elle. فأخذ الزينة في الصلاة حق لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا. Donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, donc quand elle est chez elle, en dehors de la salat, elle peut se découvrir la tête chez elle. Car le fait d'être revêtue d'une tenue pendant la salat, d'une tenue convenable pendant la salat, ceci est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le droit d'Allah. Donc la femme, elle ne se couvre pas pendant la salat parce qu'elle est vue par des hommes. Elle se couvre parce que Allah a ordonné qu'elle s'habille de cette manière pendant la salat. Donc qu'elle soit en présence d'hommes étrangers ou pas, elle doit porter le voile comme il a été décrit précédemment. Et elle doit couvrir la totalité de son corps, excepté le visage, et il y a une divergence au sujet des mains et des pieds. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, recommande fortement à la femme de couvrir ses pieds pendant la salat. Mais il a dit, je ne peux pas dire, si jamais la femme fait la salat sans couvrir son pied, je ne peux pas dire que sa salat est invalide. Lakin, c'est une précaution, dans tous les cas pour la femme, de couvrir ses pieds pendant la salat. Cheikh Ibn Islam Ibn Taymiyyah, il poursuit en disant « Il n'est pas permis il n'est permis à personne d'effectuer at-tawaf autour de la demeure sacrée en étant nu, même s'il est seul la nuit. وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ. Car il veut montrer que ici c'est un droit qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se couvrir pendant la tawaf, même s'il est tout seul. Et également l'homme, même s'il est chez lui tout seul, il n'a pas le droit de faire la salat en caleçon ou là. Il doit se couvrir. Couvrir le bas et le haut de son corps. Il ne doit pas faire la salat torse nu, sous prétexte qu'il fait chaud et qu'il est tout seul et que personne ne le voit. Car ça, c'est un droit qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala, de se couvrir ainsi pendant la salat. Il a dit de même qu'il n'est pas permis de faire la salat nu, même en étant seul. Jusqu'à ce qu'il a dit, فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. انتهى. Il a dit, car la nudité rituelle, l'aura, dans la salat n'est donc pas liée à la nudité relative au regard, ce qu'on appelle عورة النظر, ni de manière absolue, ni en réciproque. Fin de citation. De Cheikh l'Islam, Taymiyyah rahimahullah, de Majmou' al-Fatawa de Ibn al-Qasim. وقال في المغني وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا بأن يكون يسيرا وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي. Donc dans le Mughni, l'imam Ibn Qudama, il dit quand tu as l'ensemble du corps de la femme libre, il est obligatoire de le couvrir pendant la salat. Et si une partie de son corps vient à être découverte, sa salat n'est pas valide. Sauf s'il s'agit d'une quantité minime. C'est également l'avis de l'imam Malik de l'Awza'i de Shafi'i. C'est l'avis de tous ces imams. وذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي. Donc la femme, dans le Mughni, l'imam Ibn Qudama dit toujours, la femme se regroupe sur elle-même lors de l'inclinaison, ruku, et lors de la prosternation, sujoud, au lieu d'écarter ses membres, comme le fait l'homme. وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش لأنه أسر لها. Et donc ils ont dit également que la femme, elle s'assoit les jambes croisées, ce qu'on appelle tarab, ou elle laisse glisser ses deux pieds du côté droit, au lieu de s'asseoir en position de tawarruk ou de l'iftirash, car cela est plus couvrant pour elle. Ça permet de mieux la couvrir. Là qu'il y a des savants qui voient que la femme est comme l'homme dans toutes ses positions. Tout ce qui a été rapporté pour l'homme est valable pour l'homme, la femme. Et ça, c'est des jtihadats de certains hommes de science. C'est des efforts d'interprétation, car ils ont vu que ces positions permettent de mieux couvrir la femme. Lakin, Wallahu a'lam. La femme est comme l'homme dans toutes ces positions-là. La femme est comme l'homme dans toutes ces positions. Il suffit qu'elle ait un voile assez ample et assez large pour qu'on ne voit pas d'elle, yani ses formes et ainsi de suite. Taïb, combien de temps est passé? Ouf, une heure. Taïb, peut-être on va lire juste la fin de ce point et on s'arrêtera sur le quatrième point. Taïb, il a dit « Wa qala an-Nawawi » قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة Donc il rapporte la parole de An-Nawawi رحمه الله dans son livre qui s'intitule Al-Majmou' un livre précieux dans la jurisprudence. Il a été mentionné comme un des livres les plus importants pour celui qui souhaite faire le fatwa. Al-Majmou' de Nawawi wa Al-Mughni qu'on a vu précédemment de Ibn Qudama wa Al-Tamhid wa Al-Istidkar de l'imam du Maghreb, l'imam Ibn Abd al-Barr et ils ont mentionné également Al-Muhalla de Ibn Hazm. Ils ont dit, celui qui n'a pas bien étudié ces quatre livres, qui sont des grands livres, le Majmou' c'est à peu près 23 volumes. Le Mughni c'est 15 volumes. Et Tamhid c'est 26 volumes. Le Sidkar, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est un grand livre également. Et le Muhalla, ça a été édité en plus de 20 volumes. C'est des grands livres de l'fiqh qui traitent de tous les madahib et qui ne sont pas consacrés à une école en particulier. Taïb. Donc Nawawi, il rapporte dans ce livre de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le Mukhtasar, qu'il est dit « Wala farqa bayna al-rijali wal-nisa'i fi amal al-salat » l'imam Shafi'i dit, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans la pratique de la salat. C'est-à-dire, tout ce qui a été rapporté pour l'homme doit être fait pour la femme, jusqu'à preuve du contraire. Illa anna al-mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'daha ila ba'd. Donc après avoir dit qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans la pratique de la salat, il a dit toutefois, il est préférable pour la femme de se regrouper le corps et qu'elle colle son ventre contre ses cuisses. وَأَنْ تُلْسِقَ بَطْنَهَا بِفَخْضَيْهَا فِي السُّجُودِ qu'elle colle son ventre contre ses cuisses lors de la prosternation. Et ainsi elle sera plus couverte et préservée. Et il a dit qu'il préfère qu'elle agisse ainsi lors du ruku', l'inclinaison également, et dans le reste de la salat. Dans le reste de la salat. Yani à chaque fois qu'il y a une position où la femme, où l'homme est amené à s'écarter, la femme, non, elle va, yani comme si elle va se regrouper pour se préserver et afin qu'on ne voit pas ses formes. Lakin, comme je vous ai dit, Wallahu alam, anna la femme, elle est comme l'homme dans toute la pratique de la salat. Sauf s'il y a une position qui va montrer des parties de son corps, ou là, ça peut dépendre des femmes et de la corpulence de chaque femme. Lakin, la règle générale, c'est que la femme, elle est identique à l'homme dans toute la pratique de la salat. C'est l'avis que soutient, entre autres, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, nous allons nous arrêter ici, bi-idhnillahi ta'ala. sur ce troisième point et on continuera la semaine prochaine si Allah nous le permet. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.